J'aimerais parler de Jean ou de Marc ce matin. Qui a déjà lu l'évangile de Marc? On ne va pas lever la main, mais j'imagine que tout le monde sait que ce fameux Marc dont on va parler a écrit un évangile. Donc c'est un personnage quand même clé du Nouveau Testament. On va voir ensemble que c'est peut-être Pierre qui est vraiment l'auteur de cet évangile et que Marc est plutôt son scribe, hein. C'est lui qui l'a rédigé, mais celui qui va dicter, qui est le père du texte, c'est plutôt l'apôtre Pierre. Il est appelé, ce jeune homme, Marc, il est appelé Jean-Marc, il est appelé juste Marc, parfois il est appelé juste Jean, mais c'est toujours le même personnage. Et on ne va pas lire ça, je vous inviterai à le faire chez vous, mais en introduction, on pourrait lire Hébreux 12, versets 1 à 12, puisque j'ai déjà pris un petit moment. Mais ce texte nous encourage, et c'était le but de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à persévérer quand il y a des moments difficiles et des défis. Beaucoup de destinataires de l'Épître aux Hébreux avaient envie d'abandonner. Ils avaient envie de retourner au judaïsme ou de quitter la foi pour ne plus souffrir. Il y avait trop de défis. Et dans ce chapitre, il encourage, il dit, il y a une telle nuée de témoins tout autour. Continuez, persévérez, gardez les yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui a commencé cette œuvre en vous, il a fait naître la foi en vous, il va l'emmener à la perfection. Puis après, il parle des moments difficiles où on doit résister. Il parle de chrétiens qui ont dû résister jusqu'au sang, jusqu'à la mort. J'espère que ce n'est pas notre cas, mais ça peut nous arriver. Puis après, il dit, et n'oubliez pas que Dieu, qui est notre Père, puisque c'est question de grandir dans l'amour du Père, c'est un Père qui nous corrige et qui parfois nous reprend. Et le mot « corriger » ici, c'est très positif. Vous savez, quand on prend une gomme et qu'on corrige, c'est parce qu'on veut faire mieux. Parce qu'il y avait une rature ou on avait écrit quelque chose. Et quand Dieu nous corrige aussi, il nous reprend parce qu'il veut nous faire grandir à la stature de Jésus. Il veut nous faire entrer plus loin dans l'intimité avec son Fils, dans la connaissance de qui il est. Et ça, c'est ce que nous dit ce chapitre 12, l'Épître aux Hébreux. Il dit « Si vous êtes des fils légitimes, que Dieu vous reconnaît comme ses enfants, c'est normal que parfois il vous corrige, ou il vous reprend, ou il vous remet sur le droit chemin. » C'est un peu ce qui est arrivé à Jean-Marc, je crois. Alors, Jean-Marc, on va faire un petit survol comme ça, et puis d'abord dire qui il est. Donc vous vous souvenez, suivant les textes, on va en lire quelques-uns, on l'appelle Jean, on l'appelle Jean-Marc, on l'appelle Marc, ou on l'appelle Jean. Mais c'est la même personne. Ce qu'on peut dire de lui, c'est qu'il a eu une mère croyante, qui était fort probablement juive, et on suppose que son père était romain. On ne sait pas grand-chose de lui. Ce qu'on sait, c'est qu'il a grandi dans une maison où il y avait la vie, hein, et puis il était habitué à voir la puissance de Dieu. Il avait une maison à Jérusalem. Acte 12, versets 12 et 13, on va lire juste le verset 12, c'est l'épisode où Pierre est emprisonné. Puis vous savez, il y a un ange qui vient le réveiller. Vous vous souvenez de ça, hein? Il est emprisonné, il est sur son lit, enchaîné. Et quand on lit toute l'histoire, c'est très rigolo cette histoire, parce que l'ange doit vraiment le secouer, puis il ne sait pas s'il rêve, et puis l'ange doit lui dire « lève-toi », puis après il lui dit « oublie pas ta ceinture », puis après il lui dit « oublie pas tes chaussures », et puis après, c'est ça, puis il sort. Et quand il sort, Pierre, il va à la maison, frapper. Hein, vous savez, il y avait ces chrétiens qui étaient réunis pour prier pour lui. Puis quand ils entendent frapper, la cérémonie ouvrir, elle voit Pierre, puis hop, elle referme vite, j'ai vu, c'est son fantôme. Ils ne croyaient pas à leur prière. Mais ça, c'est la maison où a grandi Jean-Marc. Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Donc on voit qu'il grandit dans un milieu où il a vu Dieu à l'œuvre, il a vu des choses incroyables. C'était un des lieux centraux, hein. C'est là où Pierre, quand il sort de prison, c'est là où il va. Donc il a grandi dans un endroit où il a vu la main de Dieu. Il y a deux, trois choses, je vais sortir. Quand on lit l'évangile de Marc, vous savez, il y a un moment donné, Marc 14, 51, c'est juste pour l'anecdote, il est question ici d'un jeune homme, quand on a arrêté Jésus, qui s'est enfui, puis il était habillé juste d'un drap, puis il a laissé son bras, puis son drap, il est parti nu. C'est bizarre, on se dit, qu'est-ce qu'il fait là, ce texte? On pense que c'est Marc, Jean-Marc, parce qu'il n'y a que dans cet évangile que c'est écrit. On n'est pas très sûr. Autre chose importante, il est cousin de Barnabas. Barnabas, c'est aussi un homme clé dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes. C'est vraiment le premier homme qui va être, après l'apôtre Pierre, qui initie le mouvement missionnaire, qui prend Paul avec lui, qui enseigne. Barnabas, ça veut dire fils d'exhortation, fils de la prophétie. On peut dire c'est lui qui a fait lever le ministère de Paul. Il l'emmène avec lui. Et quand on lit l'histoire, au début de ces deux hommes, on dit Barnabas et Paul au début. Donc il y a comme une prééminence. Donc c'est le cousin. Donc il est entouré de familles qui connaissent Dieu, qui sont, voilà, il a grandi dans un milieu vraiment privilégié. Colossiens 4:10, je vous le lis rapidement. Vous avez les salutations d'Aristarque, mon compagnon de prison, du cousin de Barnabas, Marc, au sujet duquel vous avez reçu mes instructions. Un autre personnage influent dans la vie de ce jeune homme, c'est Pierre, l'apôtre Pierre. C'est son père spirituel, en fait. On a vu, et ça, l'histoire nous le dit, que l'évangile de Marc, en fait, c'est Pierre qui le dicte. 1 Pierre 5:13 nous dit « Recevez les salutations de l'Église qui est à Babylone et que Dieu a choisi. Mon fils, Marc, vous envoie ses salutations. » Ce n'était pas son fils dans la chair, mais c'était vraiment son fils spirituel. Il y avait un lien très intime et ils ont collaboré beaucoup. Ben voilà, et déjà Pierre, quand il est sur prison, il va à la maison où habite Marc. Il part, donc il est né dans une famille croyante, avait entouré de gens vraiment influents. Il sait ce que c'est que le royaume de Dieu, il sait ce que c'est que marcher avec le Seigneur, il a vu. Il part comme assistant de Paul et Barnabas. Quand il commence après acte 13, quand ils commencent leur voyage et qu'ils se déplacent de lieu en lieu pour annoncer l'évangile et implanter des églises. Et on peut se dire, peut-être, qu'il n'avait pas vraiment d'appel. Ou peut-être, et là on met des peut-être, parce que le texte ne nous le dit pas, peut-être qu'il n'était pas formé pour ça. Peut-être qu'il n'avait pas une conviction personnelle forte. C'est peut-être son cousin Barnabas et Paul qui emmenaient les gens avec lui, qui avaient besoin, qui l'ont emmené. Là, on met des peut-être. Mais la Bible nous dit qu'il est parti avec eux. Acte 12, verset 25, je vous le lis. Il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le gouverneur, et Saul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir prié et jeûné, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie où ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et les secondait. Autant l'appel pour Barnabas et Paul, c'est très clair, mais Jean-Marc, ah, il est avec eux. Qu'est-ce qui va arriver à ce jeune homme? Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites par les commentateurs du Nouveau Testament sur ce qui va arriver. Et on est obligé de faire un petit peu des suppositions, mais il y a quand même suffisamment d'éléments clairs qui nous permettent de, en tout cas pour les étapes clés, d'en tirer un enseignement pour nous aujourd'hui. À un moment donné, il va quitter Paul et Barnabas, puis il retourne à Jérusalem. On lit ça dans... j'ai perdu mon texte, excusez-moi. Acte 13, verset 13. Paul et ses compagnons reprirent la mer à Paphos, c'est quand ils font leur deuxième voyage, et arrivèrent à Pergé, en Pamphylie. Là, Jean-Marc les abandonna et retourna à Jérusalem. Vous voyez, le texte ne nous dit pas les quitta, mais il les abandonna. Et c'est un peu fort hein, comme texte. Et puis on ne lui dit rien. Et il les laisse et il repart à Jérusalem. Donc il y a quelque chose qui se passe. Je vous lis un commentaire que j'ai retrouvé ce matin. Donc je préparais ça, je ne vais pas tout lire, mais et on peut trouver beaucoup de suppositions, mais j'ai trouvé très intéressant ce qui est dit ici. Parce qu'en fait, ça nous rejoint souvent dans nos vies à nous, ou dans nos vies d'église. On a pris des décisions, on travaille avec des personnes, tout à coup, patatras, tout s'arrête, ou il y a des décisions, voilà, hein, Yann et Sarah sont partis, sont plus là, c'est... Comment on fait? C'est un petit peu ce qu'ils ont vécu. Enfin, c'est pas la même chose, mais... D'abord, en lisant ce texte, ça nous rappelle que c'est la réalité de la vie, que la vie fait que parfois il y a des choses qu'on n'a pas prévues qui arrivent, et comment on va les gérer? Comment on va les vivre? Comment on va les traverser? Alors je vous lis ce qu'un commentateur dit. Quand Jean-Marc s'en va. La grandeur de Barnabas est manifestée par sa volonté à laisser Paul devenir le chef, entre guillemets. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est plus Barnabas et Paul, mais c'est Paul et Barnabas. Puis on voit toujours Paul qui prend le devant. Et on a l'impression que Barnabas, il a accepté, et que c'était en plus dans le plan de Dieu, il y avait une évolution. On dit Paul et ses compagnons. Hein. Et puis ils veulent aller plus loin. Et à ce moment-là, Jean-Marc, il déserte et ça nous emmène dans beaucoup de suppositions. La première, j'ai trouvé ça très intéressant, il est peut-être simplement déçu du changement de chef. Après tout, Barnabas, c'était son cousin, mince. Et c'était lui le meilleur. Et peut-être que... Peut-être, là on est dans les peut-être. Mais est-ce que parfois on n'est pas déçu dans l'Église ou dans notre vie avec Dieu parce qu'on fait des suppositions sur des événements qui ont eu lieu? Et en fait, au fond, tout au fond, on ne sait pas trop. Et puis parfois, on est... Mais la réalité, hein, qu'on est déçu ou qu'on s'arrête. Je ne crois pas que Jean-Marc, il avait raison. Puis quand on lit tout, on se rend qu'à un moment donné, il était dans... Il est sorti de ce que Dieu voulait pour lui. La Bible est très... Elle le dit simplement, sans le juger. Puis il y a une bonne fin. Deuxième point, pour un juif de Palestine comme Marc, c'est peut-être ça aussi... Il voyageait, il était hors de chez lui. La nouvelle importante accordée aux païens demandait peut-être une trop grande adaptation. Là, on est en plein dans le livre qu'on a traduit. Il était juif, mince. Qu'est-ce qu'il allait s'occuper des païens? Il y avait plein de boulot à Jérusalem, puis c'était eux, le peuple élu. Peut-être que ça rentre en ligne de compte. Il avait peut-être peur simplement de la dangerosité de la route d'Antioche, qui était connue pour être souvent empruntée par des brigands et des détrousseurs. On traversait les montagnes, c'était une route difficile. Peut-être qu'il a eu peur des défis qui étaient là devant lui. Parfois, on s'arrête dans notre vie avec Dieu, personnel, en tant qu'Église, parce qu'il y a tellement de défis, de changements, de choses où on ne sait pas trop où on va, on s'arrête. On ne sait pas ce que fait cet homme. Certains disent, et je pense qu'il y a du vrai, que Paul est tombé malade quand il était à Perge, donc dans cette région, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de malaria. Donc il a eu le paludisme. Elle était souvent sujette à des infections violentes. Ensuite, juste après, quand il dit, il écrit aux Galates, Paul, il dit, j'ai une grande infirmité dans la chair, voyez, avec quelle difficulté je vous écris. Et ce groupe missionnaire se dirigea peut-être vers l'intérieur des terres, à une altitude plus élevée, pour éviter les ravages de la malaria. Et Marc, découragé par ce choix, retourna peut-être chez lui. Puis la dernière chose, c'est ce que j'avais toujours entendu jusque-là, c'est que simplement Marc, il les quitte parce qu'il a le mal du pays, puis veut retourner chez sa mère. Il était assez jeune. Il a l'ennui de maman. mais là aussi, on fait du... Mais le fait est qu'il les abandonne. Ça, là, on peut pas changer le texte. Et qu'est-ce que ça va faire? D'abord, il nous semble que pour lui, il vit un temps de retrait, puis après la Bible ne dit plus rien, qu'il est plus dans le service, il est découragé, il s'arrête. Mais Dieu ne l'abandonne pas. Est-ce qu'il y a peut-être des personnes qui ont vécu ou qui vivent des temps comme ça, où on a l'impression que tout s'arrête? On ne sait plus trop quoi faire. On est là, mais intérieurement, on s'est arrêté. Bien, Dieu ne nous abandonne pas. Mais c'est à nous d'aller vers lui. Mais lui ne nous abandonne pas, il ne se décourage pas. Qu'est-ce que ça va faire? Son départ apparemment non prévu et abrupt va amener la séparation de deux serviteurs de Dieu. On lit dans Acte 15, verset 39, qui continue à enseigner, etc. Après quelque temps, Paul dit à Barnabas, partons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent. Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean, appelé aussi Marc. Et Paul, quant à lui, estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Et voyez ce qui est dit juste après, leur désaccord, Paul et Barnabas, cette équipe extraordinaire, fut si profond qu'ils se séparèrent. Si vous allez voir les différentes traductions, je crois que Darby et puis les secondes non révisées disent que le dissentiment fut si aigre qu'ils se séparèrent. Hein, quand c'est aigre, amer. Et ça a fait qu'il y a une fracture dans, on va dire, l'équipe que le Seigneur était en train d'utiliser. Des fois, nos choix que nous faisons, pensant qu'on a raison, c'est notre droit, on peut affecter l'œuvre de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Dès qu'on est devenu disciple de Jésus, et Jésus va le dire clairement, il dit, quand tu as tout quitté pour me suivre et que tu te retournes, hein, si tu as mis les mains à la charrue et que tu retournes en arrière, tu es indigne du royaume de Dieu. C'est fort, hein? C'est Jésus qui dit ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de s'arrêter, qu'il n'y a pas des moments où Dieu nous met au large, mais ça veut dire qu'on doit être conscient et bien réfléchir de comment on fait les choses, quand on les fait, ou quand tout à coup on est fâché ou déçu, qu'est-ce qu'on va dire? On ne sait pas, peut-être Marc, il a papoté tout autour de lui, il a dit du mal de Paul, on ne sait pas. Là, on suppose. Mais vous êtes comme moi, hein? Il y en a quelques-uns qui sont chrétiens depuis un moment, on sait que parfois ces choses peuvent arriver. Et donc, on voit ici que Paul, il dit non, lui, on ne peut pas compter sur lui, c'est encore un gamin, laissons-le, on va le laisser grandir, on continue. Puis Barnabas, non. Et du coup, ça amène une séparation entre les deux. Ensuite, on ne parle plus de Barnabas. Alors, peut-être, si on va trop vite, trop loin, on se dit, ben voilà, Dieu approuve Paul et désapprouve Barnabas, mais le fait est, et je ne crois pas à ça, moi, je crois qu'il y a eu un autre chemin, mais on parle de Paul, après. À partir de là, Paul et Barnabas vont se séparer. Donc, ça nous montre que même dans le livre des Actes, alors que c'est en plein boom, que Dieu est pleinement à l'œuvre, qu'il y a des gens extraordinaires, il y a parfois des événements à cause des personnes qui font qu'il y a des temps de crise et des temps compliqués. Comment va-t-on les vivre? Et moi, j'aimerais vous encourager, et nous encourager tous, à rester vraiment accrochés au Seigneur. Et ce que Dieu nous appelle dans ces moments-là, c'est qu'on ait des cœurs pleins de grâce. Vous savez, on est si prompt à juger ou à donner des tas de conseils. Les conseils, souvent, ce n'est pas très difficile à donner. Hein. Faire un constat, ouais, il n'y avait pas de louange. Mais qu'est-ce que vous êtes nul? Vous ne pouviez pas vous organiser autrement? Non, mais franchement, j'ai peut-être raison. Hein. Mais dans la réalité, non, mais comprenez ce que je veux dire. C'est pas du tout. Mais dans la réalité d'une vie d'église, c'est juste, c'est facile à dire ça, mais faire autrement, vous comprenez? C'est la réalité de la vie, du service et du... Pardonne-moi, mais on t'a compris ce que je voulais dire. Ça veut dire que c'est facile parfois de faire des constats et de dire des trucs, mais qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Donc Dieu nous appelle à être plein de grâce. Et c'est pas parce qu'on est plein de grâce que... On ne doit pas juger les choses et se dire, bah oui, peut-être Jean-Marc, il était trop faible. Il avait besoin de régler des choses et il a besoin de faire une pause, mais ce n'est pas pour ça qu'on met une croix sur lui, puis qu'on le casse et qu'on l'oublie. Vous êtes d'accord? Et ce n'est pas pour ça que Dieu l'a fait. Donc vous savez, en lisant ce texte, on peut être tout. On peut être les spectateurs de ça, on peut être un peu comme Jean-Marc, on peut être un peu comme Paul. Laissons le Seigneur nous interpeller chacun nous. Là où on en a besoin, parce qu'il veut nous encourager. C'est ça en fait le but de ce message. J'arrive au terme. La bonne nouvelle, c'est que, alors la mauvaise, c'est que Paul et Barnabas se séparent, on l'a vu, mais Dieu va restaurer ce jeune homme. Et lui peut-être va être participant de ça. Et Paul, il va se laisser interpeller, et puis à la fin de leur vie, ils redeviennent des vrais collaborateurs. C'est ça qui est extraordinaire. Ça a mis un certain temps, hein. Mais il va redevenir plus tard un fidèle collaborateur de Paul. Quand on lit il semble que c'est à peu près, ça a mis 20 ans entre le moment où il les quitte et le moment où c'est peut-être 15 ans, c'est peut-être 22, on ne sait pas. Mais enfin, ça a mis, en tout cas, plus que 10 ans, c'est certain, jusqu'à ce qu'il rentre à nouveau dans le service. Il semble que c'est plutôt proche de 20 ans. Et on lit comme ça quelques indices de la part de Paul. Et Paul, il avait ce cœur de qui était tranchant par moments, mais qui était aussi capable de se laisser toucher par Dieu. Il écrit, Philémon 1, verset 22-25, je lis rapidement, Et il dit qu'il va bientôt aller dans tel endroit. On lui demande de préparer une chambre. On demande de quand on prie pour lui. Epaphras, qui est en prison avec moi à cause de Jésus-Christ, te fait bien saluer, de même que Marc. Donc on voit que Marc est à nouveau avec lui. Il est de nouveau avec Paul. Et puis il cite d'autres personnes. De même que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes collaborateurs. Donc à nouveau, ils travaillent ensemble. Il s'est laissé restaurer, Paul s'est laissé toucher. Et que le Seigneur nous encourage ce matin, juste avec cette parole. L'histoire, elle n'est jamais finie, tant qu'on reste attaché à lui et à sa grâce. Un autre texte, je ne vais pas tous les lire, vous pourrez prendre les notes, mais 2 Timothée 4, 11, par exemple, je le lis, celui-là. « Prends Marc et amène-le avec moi, car il m'est très utile pour mon ministère. » Ça, c'est 20 ans plus tard. C'est vraiment différent de ce qu'il a dit quand il se quitte. Hein. Donc, et Jean-Marc s'est laissé restaurer, reprendre, et Paul aussi. C'est les deux côtés. La réconciliation, c'est toujours les deux. Vous pouvez lire aussi Colossiens 4, 10, mais on ne va pas le lire maintenant, c'est les textes. Et, j'ai dit trop tôt, je termine, mais cette fois c'est... Mais qu'est-ce qui a ramené Jean-Marc ? Qu'est-ce qui a ramené ? On est un peu dans les suppositions, mais en fait, des fois la Bible nous donne des histoires comme ça et on n'a pas tous les éléments, parce que je crois que Dieu nous montre ce qu'il peut faire, et puis comme nos vies, elles sont toutes différentes, nos histoires, nos circonstances, ça peut changer de l'un à l'autre la manière dont Dieu va le faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu le fait. Alors, quelqu'un a dit la fermeté de Paul. On a lu dans Hébreux 12 que Dieu a un Père qui nous corrige parce qu'il nous reconnaît comme ses enfants. Et il dit « acceptez la correction de Dieu ». Il a dit « j'en veux plus ». Dieu châtie ses fils parce qu'il les aime. Et ça amène la crainte de Dieu. Et peut-être que Marc, il s'est dit, c'est sérieux en fait. Ça a dû avoir un impact. L'amour de Barnabas, autre chose qu'il a restauré. Malgré sa chute, entre guillemets, ou son choix, le fait qu'il les a abandonnés, Barnabas, il a continué à avoir foi en lui et pour lui. Et puis il lui redonne sa chance. 1 Pierre 4, 8 nous dit « Ayez envers tout, les uns pour les autres, un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. » Un ardent amour. C'est fort ce terme, hein? Et il dit que c'est l'amour qui doit être entre nous. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, 1 Corinthiens 13. L'amour espère tout, l'amour croit tout, l'amour pardonne tout. Ça n'exclut pas la fermeté de Paul, hein? Je crois que Paul avait cet amour, mais il y a eu un cheminement entre les deux. Troisième chose, c'est peut-être l'influence de Pierre, qui était son père spirituel, celui, son confident. Hein, il écrit l'évangile de Marc sous cette dictée. Et peut-être Pierre, il lui a dit, tu sais, t'es tombé. T'as enlevé les mains de la charrue. T'as regardé en arrière. Puis peut-être tu te rappelles ces paroles de Jésus. C'est comme si tu l'avais renié, en fait. Et Pierre lui dit, mais moi aussi j'ai renié mon maître. Mais il m'a relevé et il m'a pardonné. Il a peut-être permis à Jean-Marc, on est dans les peut-être, de s'identifier à quelqu'un qui a chuté, mais que Jésus a relevé. Et je crois que ces trois choses, ça fait souvent partie de ce que Dieu utilise avec nous quand il nous remet sur le droit chemin, ou quand il nous utilise pour quelqu'un, pour aider quelqu'un. Peut-être c'est, là on voit qu'il y a plusieurs personnes, mais il y a de la fermeté. Ce père dans lequel on veut se jeter dans ses bras, aller sur ses genoux, on parle beaucoup de l'intimité avec le père, c'est aussi un père ferme. J'ai grandi dans une église avec Pierre Truchel, où c'était un de ces sujets assez... Il dit, vous savez, Dieu est assis sur son trône, et il ne bouge pas, il attend. Et nous, on pleure, on crie, on tape du pied, parce que et lui, il ne change pas, mais il attend qu'on change. Mais il nous aime. La fermeté, l'amour, et la fermeté et l'amour, ça va ensemble. Puis la compréhension. Et en fait, quand on regarde Jésus, bien lui avait ces trois aspects-là, et tellement complètement. Je m'arrête ici. J'espère que cette histoire de Jean-Marc, ça nous encourage. Peut-être d'abord pour nous. Peut-être pour des personnes à qui on pense. Peut-être pour des situations qu'on voit, qu'on a vécues, que ce soit personnel, familial ou d'église. Et ça doit nous remplir de foi. Ça a mis du temps, hein? Bon, peut-être que pendant ses 20 ans, il a fait plein de choses, Marc, ça on ne sait pas. Peut-être qu'il a été très actif et qu'il a porté beaucoup de fruits, la Bible ne nous dit pas tout. Mais en tout cas, dans cet épisode qui nous intéresse, on voit qu'il y a une restauration. Alors je m'arrête ici. Continuons à marcher avec le Seigneur. Gardons les yeux fixés sur lui. Marchons avec lui. Et peut-être il va nous corriger, il va nous reprendre ou il va nous utiliser pour un Jean-Marc ou pour quelqu'un d'autre et pour le remettre dans le service. Amen. Je vais prier. On va prier ensemble. Et peut-être il y a un point particulier où Dieu t'a parlé ce matin. C'est peut-être pour toi, ou c'est peut-être à quelqu'un d'autre que tu penses, c'est peut-être pour une situation de l'Église, c'est peut-être pour l'Église, la vie d'Église. Et si tu sais que tu dois, il y a peut-être quelque chose que tu dois remettre en ordre, ou à nouveau ouvrir ton cœur, croire que c'est possible. Ben, ce matin, Dieu te dit, viens à moi, c'est possible. Tu dois juste changer ta position, dire, ben, mais oui, avec toi, tout est possible. Peut-être c'est une demande de pardon parce que tu as jugé, parce que tu étais dur et tu as mis une croix sur toi-même, sur une personne, sur une situation. Et Dieu ne fait pas ça. Et peut-être simplement tu sens qu'il t'appelle à être un Pierre ou un Barnabas ou un Paul qui va aider quelqu'un ou une situation. Prenons juste quelques secondes où on peut répondre à ça dans nos cœurs. Seigneur, je te remercie pour cette histoire, pour ce Jean-Marc, pour Paul, pour Barnabas, pour Pierre. Merci parce que c'est dans ta parole et elle nous montre que la vie avec toi et le service avec toi n'est pas... Oui, on est de la même nature qu'eux. On a les mêmes défis. Et Seigneur, je prie que tu nous aides à rester réalistes et réels dans ce monde dans lequel on vit. Les pieds bien sur terre, mais notre cœur et notre tête dans le ciel avec toi. Et merci parce que tu as rétabli cette situation, tu as guéri cette situation, tu as rétabli ce jeune homme, tu as rétabli aussi la confiance que Paul lui donnait. Merci pour les personnes que tu as utilisées. Moi, je prie que si on traverse des situations, je prie pour chacun qui a élevé sa voix dans son cœur maintenant, quelle que soit sa réponse ou sa question devant toi, eh bien tu le visites maintenant. Au nom de Jésus, et qu'il en sorte un mieux, Seigneur, ou un début d'un cheminement pour une restauration. Au nom de Jésus. Amen.